Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MGV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. 9h40 sur France Inter, c'est déjà dimanche.
C'est énorme ce qui s'est passé, les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
Qu'est-ce qui a changé ces dernières années pour que le dimanche soir, sur la première antenne du service public, le journal télévisé devienne un rendez-vous comme un autre au sein d'une tranche de 2 heures, pour que 19h devienne un horaire aussi important que 20h, pour que l'info se nourrisse désormais de fiction, d'humour et d'artistes en plateau? Il en rêvait depuis des années, France 2 l'a fait, et ça pose autant de questions sur les genres télévisuels que sur les aspirations d'un journaliste qui n'aime rien tant que les bousculer, les genres. Ou qui s'est dit peut-être qu'il ne fallait pas laisser au divertissement l'entière responsabilité de faire avancer les formes télévisées.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Et bonjour Laurent Delahousse.
Bonjour, j'étais presque à l'heure.
Non mais non, vous n'étiez pas du tout à l'heure, vous étiez coincé dans les embouteillages. De toute façon, je pense que je vais demander à Laurence Bloch de décaler cette émission, de l'avancer ou de la retarder. C'est la pire heure pour faire traverser Paris à des invités. Alors, vous arrivez un vendredi, Laurent Delahousse, dans l'Instant M. C'est le jour de notre Instant Madeleine. Toutes les semaines, nous jouons avec les souvenirs de télévision et de radio de nos auditeurs. Vous, vous n'avez vraiment pas le droit de jouer. Surtout aujourd'hui, ce sera trop facile pour vous. Le premier qui répond et qui a bon remporte un sublime DVD, Elvire Jouvet 40. Louis Jouvet fait travailler à l'une de ses élèves le monologue d'Elvire de Don Juan. Benoît Jacquot en a tiré un film, c'est magnifique, je vous le jalouse ce cadeau-là. Notre adresse, l'Instant M, tout attaché, l'Instant M à radiofrance.com. Ma question, qui présente le 20h d'Antenne 2 en ce jour de novembre 1987?
Bonsoir et merci d'être fidèle au journal d'Antenne 2. À la une ce soir, une nouvelle fois la tourmente sur les marchés monétaires. Le dollar est au plus bas sur les places européennes et à New York, le secrétaire au Trésor, M. Baker, est catégorique. La baisse du dollar est préférable à une récession. Réaction et explication dans quelques instants.
Il crée le 19-20 de France 3 en 86, il présente le 13h et le 20h de la 2 dans la foulée. Qui est-il? L'Instant M à radiofrance.com. Bonne chance à vous tous. Laurent Delahousse, il ne faut pas prononcer son nom, vous l'avez reconnu ou pas?
Oui, bien sûr. Beau générique,
stop.
Très bon générique.
Ce jeune journaliste mystère serait le premier, ai-je lu dans la presse, à avoir présenté l'info debout, à s'être levé au milieu du JT,
du plateau.
Vous voyez, voilà, du plateau. Bref, c'était il y a 30 ans. Eh bien moi, ça m'a beaucoup amusé parce que cette semaine, on a largement commenté le fait qu'Anne-Sophie Lapix se lève sur le plateau de France 2 au milieu d'un JT. D'ailleurs, vous allez rejoindre ce nouveau décor ce soir, pour le 20h. Vous allez vous lever aussi?
Un peu, oui, je crois. Oui, pour aller vers les invités, peut-être pour faire les titres également.
Ouais.
C'est un grand plateau. C'est un grand plateau qui a besoin de vivre. On a besoin de se rapprocher aussi des téléspectateurs, de leur raconter une histoire. L'homme ou la femme placée derrière un pupitre qui narre l'actualité avec 18 lancements courts et parfois le ministre de la communication de l'État qui vient s'asseoir sur le plateau. Je pense que ce sont des temps révolus. On a vécu une
mais révolu
ère.
Depuis longtemps, c'est étonnant qu'on mais en final, parle encore, que ça fasse encore l'événement.
Souvenez-vous, le journal de 13h d'Yves Mourouzi était quand même une grand-messe atypique et bien désacralisée depuis très longtemps.
Ouais.
Donc oui, ça me surprend toujours. Il y a plein de choses qui me surprennent toujours, vous savez, dans le commentaire
parce
de l'actualité
que, parce
médiatique.
Parce que vous, le fait de bouger sur un plateau, dans les soirées électorales, ça, c'est votre marque de fabrique depuis très longtemps. C'était le cas déjà dans les JT du week-end. M6 fait des journaux debout depuis des années et des années. Enfin, ça fait des années qu'on bouge à la télé.
Ça fait donc des années que, effectivement, beaucoup de gens font de petites choses, de grandes choses et de choses qui sont, selon moi, assez peu importante. Il y a des choses bien plus importantes dont on peut parler, et notamment dans votre émission, parce que je sais que, comme je l'écoute souvent, on parle souvent d'autres choses.
Bien, on va y venir. En attendant, on félicite Antoine. Antoine, il a reconnu la voix d'Henri Sagné qui faisait ses adieux hier soir à la présentation de Tout le Sport après 40 ans de service public.
L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Cela fait maintenant 10 ans que je vous retrouve chaque week-end sur France 2. Je vous propose désormais un nouveau rendez-vous.
La séance est ouverte.
Laurent Delahousse, pourquoi vous en aviez marre de présenter le JT?
J'en avais pas marre, j'étais, comment dire, peut-être même impacté par 10 ans d'actualité, surtout celle de ces dernières années. Pas une forme de lassitude, une forme de blessure et peut-être une manière de ne plus raconter l'actualité d'une manière assez proche et aussi proche que ce que je voulais vraiment. Je voulais être différent et renvoyer quelque chose de différent et en tout cas l'aborder de manière différente et la raconter de manière différente.
Parce que fabriquer ces deux heures du dimanche soir, évidemment, ça excluait le fait de continuer toutes les éditions du week-end, notamment celle de 13h. Mais même pour le vendredi soir et le samedi soir, ça a été une discussion. Vous seriez volontiers totalement libéré du 20h.
Je pense que j'avais besoin de tourner une page, en tout cas d'inventer autre chose et d'être peut-être plus en adéquation avec ce que je suis aujourd'hui. Mmh.
Voilà. Et la direction de France Télévisions a dit non, on continue quand même les 20h.
Je pense qu'elle a eu raison.
Samedi.
Je vous le dis sincèrement, je pense qu'elle a eu raison entre les velléités et des envies et un appétit que j'avais moi parce que j'avais une forme de... Ça se dit à la radio ou de manière publique, une fatigue physique et peut-être même psychologique.
Ça se dit, c'est très humain.
De courir après beaucoup de choses, depuis beaucoup de temps. Les gens pensent peut-être que j'arrive le vendredi et que je repars le dimanche et que le reste du temps, j'ai la chance de pouvoir respirer. C'est pas le cas. C'est pas le cas parce que je suis un hyperactif. Je sais pas exactement pourquoi, on peut en parler aussi de manière très longue. Voilà, j'ai beaucoup de choses dans ma vie qui ont fait que j'avais des semaines très riches, très denses, que le journal, ça commence... le mardi matin, que les émissions et les documentaires, ça commence dès le mardi matin, que...
Et Delphine Ernotte vous a proposé le 20h semaine, le 20h semaine qu'incarnait jusqu'alors David Pujadas.
On en a parlé avec elle, parce que j'ai des discussions très claires et très franches avec elle depuis le premier jour. Elle m'a expliqué qu'elle réfléchissait à cette idée, elle me l'a proposé, et je lui ai expliqué que je racontais une histoire depuis 10 ans avec les téléspectateurs du week-end, que j'avais un lien affectif, et je pense avec eux et réciproque, et que je ne comprenais pas l'idée de changer de case pour aller raconter une histoire qui, pour certains, encore une fois, on en revient au début de notre discussion, pourrait alimenter en disant « Mais c'est le 20h semaine, c'est le 20h semaine. Mais qu'est-ce que je fais depuis 10 ans ?» Je me lève à 8h du matin pour faire le 13h, le 20h, le 13h15. Je raconte l'actualité de la même façon qu'on la raconte la semaine. Et j'ai l'impression d'avoir tissé un lien le week-end. J'aime ce journal du week-end et j'aime aussi incarner quelque chose que je regarde. Alors, je reconnais que le journal de la semaine, à 20h, je ne suis pas encore chez moi et que je ne regarde pas l'information comme ça. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas regardé et que je ne regarde pas le journal de 20h de la semaine, parce que ça peut être votre question de savoir si je regarde le journal de Sophie Lapix cette semaine.
Non.
Mais voilà,
non.
Je le regarde en décalé. Et donc, voilà, je voulais proposer autre chose.
Alors, une tranche d'info de 2h, on va prendre le temps de la détailler. Évidemment, ce qui frappe, c'est la désacralisation du JT. Mais là, je ne parle pas de désacralisation, tout ce qu'on blabla depuis 10 ans, blabla sur la fin des grands rendez-vous, etc. Sauf que là, c'est frappant. C'est un rendez-vous au milieu d'une tranche de 2h. Et même si on joue sur votre manie de la titraille avec les horaires, c'était la seule et unique émission de télévision, le JT, qui utilisait son horaire en titre, le 20h. Ensuite, c'est devenu le 13h. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous créez des 13h15, des 20h55 et maintenant des 19h. Comme s'il y avait d'autres horaires aussi importants que le 20h.
Bah oui, sur les chaînes généralistes, il y a d'autres horaires que 13h et 20h pour faire de l'information, pour raconter l'actualité, pour rapprocher les téléspectateurs d'autre chose que l'actualité chaude et immédiate, de prendre le temps de raconter l'actualité autrement. C'est ce qu'on va faire durant cette tranche. C'est ce qu'on fait dans 13h15. Le 13h15 de samedi, c'est quoi? C'est se rapprocher des Français pour raconter ces histoires avec une manière de filmer, de raconter avec un code narratif un peu différent de ce qu'on voit en magazine ailleurs. Et ce qu'on va faire à 19h, ça sera différent de ce qui est offert et proposé ailleurs. Du 7 à 8, de 66 minutes, dont on peut parler aussi un petit peu, parce que ce sont des magazines référents installés depuis des années.
Bah c'est ce que j'allais dire, en fait, depuis 20 ans, la seule et unique émission qui utilise son horaire en titre, c'est 7 à 8, c'est sûr.
Voilà.
TF1, et vous arrivez en concurrence frontale, vous avez même débauché l'un des rédacteurs chefs de l'émission pour travailler avec vous, non?
Oui, oui, tout à fait. Créer une équipe qui pouvait être en adéquation avec cette case, avec cette tranche et avec les aspirations qu'on avait. 7 à 8 est un magazine formidable qui s'est installé depuis des années. J'en avais parlé avec Emmanuel Chin avant que 7 à 8 soit créé. Moi, j'aime beaucoup l'interview de Thierry de Mézières à la fin. Ce sont des codes narratifs qui sont appliqués, standardisés, comme pour 66 minutes, qui abordent des questions d'actualité à leur manière, à leur façon, et finalement comme un multiple sandwich qui, avec différentes tranches, renvoie à chaque fois un thème, une forme narrative assez similaire, avec un ton de voix assez similaire, et ça fonctionne, et c'est très bien comme ça, et j'ai absolument pas à remettre en question ça. On va pas faire ça. Si on fait ça, ça n'a absolument aucun intérêt. Le clonage des émissions, parce que ailleurs elles marchent et elles fonctionnent, n'a aucun intérêt. En tout cas, ça n'a aucun intérêt que j'y réfléchisse et qu'on y réfléchisse ensemble. Donc ça sera pas ça, ça c'est certain.
Et la télé a une sacrée tendance à se cloner. Une dernière question sur votre titre, David Pujadas, parti sur LCI, a créé 24 heures Pujadas. Votre émission, elle pouvait s'appeler 19 heures de la housse?
Non, alors 19 heures LD, parce que c'est le hashtag. C'est 19h, Laurent Delahousse.
C'est le dimanche
et c'est Laurent Delahousse.
Ça tombe vraiment très bien.
Je pense que c'est un petit côté macronien. EM, En Marche, LD, Laurent Delahousse, David Pujadas. Il y a une personnalisation peut-être.
Voilà, c'est exactement.
C'est tranche.
Oui. À l'américaine, façon Anderson Cooper, façon tranche d'info, puisque évidemment les chaînes info, notamment BFM, ont compris ça depuis un bon moment. Quand c'est Elkrief, quand c'est Marshall, quand c'est Bourdin, c'est des tranches 100% personnifiées. C'est Laurent Delahousse qui vous raconte l'actu.
Oui, comme le matin, je vais écouter Nicolas Demorand, j'ai failli dire Patrick Cohen.
Mais non,
mais voilà, d'une manière identique. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'est des tranches qui sont incarnées par des hommes et des femmes qui apportent leur regard et qui ont une personnalité. Ça serait terrible d'imaginer et d'envisager que d'un journal à l'autre, on ait l'impression de regarder absolument le même journal. Bon, je pense que si depuis 10 ans maintenant, France 2 me fait confiance, c'est peut-être aussi parce qu'on a réussi à installer et à créer un lien avec le téléspectateur.
Alors, 19h LD. Ce sera votre générique ce soir, plutôt très réussi, je l'avoue. Une première partie, 19h-20h, avec beaucoup de formats différents. On n'en sait pas encore grand-chose. On sait que votre première invitée, c'est Fabrice Luchini. Je me trompe ?
Non, non.
Est-ce qu'une émission doit toujours commencer par une invitation de Fabrice Luchini ou d'Amélie Nothomb ? Oui, hein, à la télévision globalement.
À la télévision, écoutez, moi j'avais des référents comme ça que j'aimais bien avoir autour de moi. Quand on est obligé de caler ce genre de rendez-vous pour une première, on essaie de le faire un peu à l'avance. Ça peut être un piège aussi, parce qu'on peut effectivement rater quelque chose. Donc oui, non, Fabrice Luchini, c'est un invité qui a et qui ose regarder, apporter son regard sur l'actualité. Et dans ses personnalités dites de la société civile, c'est pas toujours évident, c'est parfois
parce
rare.
Parce que en première partie,
La Play 1, je peux le dire clairement, c'est 7/7. C'est-à-dire l'idée d'avoir un invité qui revient sur l'actualité
donc
de la semaine.
Donc ça peut être également un invité politique.
Ça sera un invité politique la semaine prochaine.
Ce sera qui ?
Il y a un petit duel.
Entre deux invités politiques. La télévision se clone, on fait un peu la même chose partout. Et oui, vous découvrez tous à la rentrée que vous avez eu la même idée, recruter un ancien politique, Jean-Pierre Raffarin, et le prendre comme chroniqueur afin d'incarner un point de vue sur l'actualité. Alors j'ai reçu à ce micro Henri Guénaud, qui devient éditorialiste sur Sud Radio, qui est tout déçu, il pensait être le seul. Et ben non, vous êtes plein.
Non, et en plus Jean-Pierre Raffarin, il ne sera pas seul. Il y en aura d'autres.
Oui.
Donc voilà,
des
sur
politiques.
Le plateau. Oui, des politiques, bien sûr.
Qui
Il y aura Edith Cresson, par exemple, une ancienne première ministre, qui viendra également.
Edith Cresson, parmi vos chroniqueuses.
Voilà, qui viendra effectivement, peut-être même d'ailleurs des dimanches, nous raconter et nous apporter son point de vue sur la politique ou sur autre chose. Ce qui ira en marge de la politique. Il y aura d'autres personnalités, il y aura une quinzaine, peut-être même un peu plus, d'éclaireurs, de personnalités qui viendront apporter leur regard. Quand j'ai entendu certains journalistes éditorialiser, effaroucher, d'entendre une forme de collusion, de mélange des genres entre les hommes politiques, mais je rigole doucement. Ces mêmes personnes qui écrivent ces papiers, ces éditos, dînent des jeunes avec ces hommes politiques depuis tant d'années. Mais pourquoi Jean-Pierre Raffarin ne pourrait pas venir aujourd'hui, parce qu'il est retraité de la vie politique, apporter son regard sur Kim Jong-un alors qu'il a une expérience et une expertise de l'Asie et de la Chine peut-être bien meilleure que beaucoup d'autres? Pourquoi Edith Cresson ne pourrait pas venir commenter et expliquer que la France serait-elle irréformable ou pas irréformable? Je ne comprends même pas l'idée que l'on puisse envisager que des journalistes reste journaliste, que des hommes politiques qui ont pris leur retraite ne puissent plus venir apporter leur regard sans qu'on ait l'impression quoi, que l'on devient partisan parce qu'on reçoit Jean-Pierre Raffarin.
Mais il y a quelque chose qui m'a étonné dans votre teasing, dans la petite vidéo de promo que vous avez enregistrée, c'est que pour votre deuxième invité, vous attendez lui qui vous raconte une histoire française. Pourquoi française ?
Non, une histoire française, c'est parce que c'était le titre de l'émission dans 13h15.
Oui, d'accord.
Oui, c'est une narration, c'est leur histoire patrimoniale, leur histoire, comment ils ont marqué.
Donc Michelle Obama est la bienvenue,
non,
Angelina
bien sûr.
Jolie est la bienvenue.
C'est ce qu'on avait effectivement, parce qu'on devait peut-être essayer d'avoir Angela Merkel et ça s'est pas fait, et ça aurait été une histoire allemande, parce que ces hommes et ces femmes sont au cœur de leur histoire nationale et bien évidemment ont parfois un rayonnement international. C'est l'idée de savoir pourquoi, et en l'occurrence les ex-téléphones et les insus, ont marqué notre histoire émotionnelle. À partir du moment où ils vont faire ce concert en 1979 ou 80 à la Courneuve et qu'ils vont chanter à la fête de l'UMA avec des masques.
Est-ce qu'un invité politique est la bienvenue, le bienvenu ou la bienvenue dans cette deuxième partie ?
Oui, j'aimais bien le faire en doc, j'aimais bien le faire en doc avec Un jour un destin, puisque j'ai reçu à peu près tous les candidats à la présidentielle, perdants ou gagnants, dans cette émission. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il n'y aura pas uniquement des artistes dans la P2 de cette émission.
Moi, je me suis demandé, et j'y ai réfléchi, et je trouve ça intéressant de le faire avec du recul, j'ai repensé à vos deux interviews de l'entre-deux-tours, celle d'Emmanuel Macron, celle de Marine Le Pen, qui avait fait couler pas mal d'encre à ce moment-là. Vous aviez prévenu, vous aviez dit, ce sera des interviews différentes, ce sera des questionnements différents, 15 minutes chacun, sur leur personnalité, sur leurs doutes, sur leur vécu psychologique, sur leur approche psychologique du pouvoir. Et je me suis dit, rétrospectivement, c'est une bonne question, pourquoi est-ce que ça échoue à chaque fois ?
Ça n'échoue pas à chaque fois, ça dépend du cadre et du moment et de l'instant. À partir du moment où vous êtes entre deux tours de l'élection présidentielle, qu'il reste une semaine de campagne, il est très difficile pour ces hommes et ces femmes de fendre encore un peu plus l'armure. On est dans un temps qui est suspendu. Ils sont dans un temps qui est extrêmement intense et presque à la limite du sublime pour eux. Ils ne peuvent pas se permettre de se donner. Regardez Marine Le Pen, comment elle s'est effondrée au moment du débat.
Mais c'est ça, qui est passionnant, c'est-à-dire que quand elle se raconte chez vous, elle fait une sorte de storytelling sur son rapport au pouvoir, au doute, à la
solitude. Et elle est sur le fil malgré tout.
Et on n'apprend rien de sa personnalité. Et quand elle est face à Macron dans le débat, d'un seul coup, toute sa personnalité et lui explose à la figure avant de nous exploser à la figure et c'est un désastre.
Parce que le chronomètre était lancé. Ouais. Le chronomètre était lancé, il n'a pas craqué au moment où j'étais en face d'elle. Je suis arrivé, on est 15 minutes, elle est au cœur de sa campagne, on s'installe, les deux fauteuils sont installés.
Donc ça ne marche pas, cet exercice ne marche pas.
Oh si, ça marche. Honnêtement, j'ai eu des entretiens avec Ségolène Royal, avec Valérie Giscard d'Estaing qui étaient incroyablement touchés, avec Arlette Laguiller chez elle.
Mais ils ne sont plus en campagne.
Bien évidemment, à partir du moment où vous arrivez avec un homme politique qui est, par exemple, Manuel Valls aujourd'hui, je pense qu'il sera forcément obligé à un moment donné d'ouvrir quelque chose. Sinon, il n'a rien compris à ce qui lui est arrivé.
France Télévisions vous a proposé l'émission politique avec Léa Salamé ? Non, la question ne s'est pas posée.
Non, la question ne s'est pas posée. D'abord parce que je pense que Delphine Ernotte et Yannick Letranchant ont tout à fait compris que j'étais plutôt dans une propension à essayer d'alléger le calendrier plutôt que d'en rajouter. Donc, je pense
Une dernière question, Laurent Delahousse. En fin de tranche, je vous promettais un duo surprise pour vaincre le blues du dimanche soir. Moi, j'aimerais bien que vous me parliez aussi du blues du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, vendredi à 8h57 sur France Inter. Le blues du jeudi soir sur France 2 après 3 heures d'émission politique quand Charline Vanhoenacker débarque. Le blues des soirées électorales quand vous prévoyez Mathieu Madénian et Thomas VDB. Enfin, pourquoi est-ce que tout le monde a forcément le blues après 2 heures de sujets sérieux? Dense, important, profond.
Vous savez, moi, une réponse assez claire. Il y avait un titre, parce que je l'avais en face de moi hier soir, qui est « Mots et merveilles ». Mots, M-A-U-X, et merveilles, qui était le papier sur Fabrice Lucchini dans Le Monde cet été. Oui. Je vis avec ces mots et ces merveilles toute ma vie. Donc, vous savez, le mot et le blues, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Au contraire, ça touche parfois le sublime et le merveilleux.
Donc, il faut rire.
Il faut rire. Et il faut accepter parfois des petites descentes qui vous... Nous emmène parfois très loin.
Merci Laurent Delahousse.
Et à dimanche.
Donc ce soir, vous retrouvez le 20h quand même de France 2.
Hein. Debout et assis.
Debout et assis, le 19h le dimanche. C'est dimanche à 19h. Bravo donc à Antoine, notre gagnant du jour. Merci à toute mon équipe de winners, Violaine Baller, Edouane Tella, Marion Philippe et Antoine Gomez à la technique.